Merci d'écouter RFI. Il est midi et demi en temps universel, 14h30 à Paris. Et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. À Dakar, le gouvernement présente aujourd'hui son programme Sénégal 2050, un programme économique mais aussi politique pour les 25 années qui viennent. Une cinquième réunion ministérielle entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ce week-end, sous médiation angolaise. Les ministres ont insisté sur la nécessité d'appliquer le cessez-le-feu en vigueur depuis le 4 août au Nord Kivu. Ils ont aussi convenu de prochaines étapes concrètes pour sortir de la crise. Et puis ce 14 octobre est journée internationale des déchets électroniques. Le monde en produit de plus en plus, mais les capacités de recyclage ne suivent pas.
Une partie de ces déchets se retrouve en Afrique. On en parle avec Julie Repetti, cofondatrice de la société Cetic à Dakar, qui traite les déchets d'entreprise. Elle est l'invitée d'Afrique Midi.
Les nouvelles autorités du Sénégal présentent depuis ce matin leur programme pour développer le pays pour les 25 prochaines années. Léa Lisa Westerhoff, on vous retrouve en direct de Dakar, Sénégal 2050. C'est le nom de ce programme pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Un programme, on le voit, aux objectifs économiques ambitieux.
Oui, tripler le revenu par habitant d'ici à 2050, assurer une croissance annuelle de plus de 6%, réduire la pauvreté, massifier la formation en alternance, développer des filières compétitives et un secteur privé fort. Voilà quelques-uns des grands objectifs déclinés ici pour les 25 prochaines années. Comment faire ? Là aussi, les objectifs de ce Sénégal rêvé sont ambitieux. Parmi les promesses, celle de former 700 000 jeunes dans les 5 prochaines années, de construire entre autres un cadre attractif pour les affaires ou encore d'investir dans la recherche et l'innovation.
Ce programme, Léa Lisa, est présenté dans un contexte économique difficile.
Oui, comment financer tout cela? Les présentations du Premier ministre Ousmane Sonko et des différents experts qui se sont succédés à la tribune sont plus floues sur ces aspects. Le redressement des comptes publics et la bonne gouvernance font partie de l'équation. Mais il est vrai que si le Sénégal produit 100 000 barils de pétrole par jour depuis quelques semaines, la note de sa dette souveraine vient d'être dégradée et le pays placé sous surveillance. La situation économique et financière n'est pas bonne et les caisses de l'État vides du fait d'une mauvaise gestion du régime sortant, selon le gouvernement. Mais à un mois d'élections législatives cruciales pour le pouvoir pour décrocher une majorité, cette présentation et ses objectifs économiques font aussi office de programme de campagne du parti au pouvoir, le PASTEF, alors que les premières impulsions positives se font attendre, Nicolas.
Léa Lisa Westerhoff, correspondante de RFI à Dakar. Une cinquième réunion ministérielle entre la RDC et le Rwanda s'est achevée ce week-end sous la médiation de l'Angola. Elle était consacrée bien sûr à la grave crise sécuritaire au Nord Kivu, où opère la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda, tandis que Kigali accuse de son côté Kinshasa de ne rien faire contre les rebelles hutus rwandais des FDLR. À Luanda, les ministres ont insisté sur la nécessité d'appliquer le cessez-le-feu en vigueur depuis le 4 août et ils ont convenu de prochaines étapes concrètes pour sortir de l'ornière. Passion Ligodi.
Les ministres ont chargé la facilitation angolaise de préparer un document stratégique appelé Concept des opérations, CONOPS, qui fixera les modalités de mise en œuvre du plan harmonisé convenu par les parties. Ces plans inclura notamment les mesures de neutralisation des FDLR réclamées par Kigali, ainsi que la gestion du retrait du dispositif militaire rwandais. Ce concept doit être finalisé d'ici au 26 octobre à partir des contributions des deux parties pour répondre aux préoccupations de chacune. Aussi, une rencontre entre les experts des trois pays est programmée pour le 30 octobre à Luanda. Cette réunion permettra d'examiner et valider les CONOPS élaborés par la facilitation angolaise. Elle sera utile pour harmoniser les actions à entreprendre et convenir des moyens techniques pour appliquer le plan sur le terrain. Pour garantir une transparence dans les mouvements des troupes et éviter les provocations, chaque pays est appelé à soumettre d'ici à ce mardi 15 octobre les noms des officiers de liaison qui feront partie du mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Ce mécanisme sera lancé officiellement à Goma au plus tard le 5 novembre avec pour mission de surveiller le respect du cessez-le-feu et les engagements de chaque partie. Passion Ligodi, Kinshasa, RFI.
Au Tchad, les eaux des fleuves Logone et Chari continuent de monter. N'Djamena, la capitale déjà inondée et directement menacée, les habitants s'inquiètent alors que le gouvernement n'a toujours pas déclaré l'état de catastrophe naturelle, Carole Valade.
N'Djamena, les relevés quotidiens du niveau des crues s'échangent sous le manteau, tandis que les hydrologues déclinent systématiquement les demandes d'interview. Un sujet devenu trop sensible, trop politique, tout est fait pour ne pas déclarer l'état d'urgence, confirme un proche de l'exécutif, selon qui les autorités voudraient à tout prix éviter le report des élections législatives et locales réclamées par une partie de l'opposition. Suite aux crues dévastatrices de 2022, le gouvernement a fait réflexionner la digue autour de Walia, qui semble jusqu'ici tenir ses promesses en protégeant une bonne partie des quartiers submergés 2 ans plus tôt. Mais l'ouvrage n'est achevé qu'à 80% et les travaux ont connu plusieurs mois d'arrêt car seul 40% de son prix a été versé à l'entreprise chargée de sa réalisation, selon une source gouvernementale. Les accusations de détournement n'ont toutefois été étayées d'aucune preuve jusqu'ici, pas plus que celles qui pointent la responsabilité de l'opposition dans les actes de malveillance signalés sur l'ouvrage. Si le gouvernement se refuse à annoncer officiellement la mobilisation de l'armée, le génie militaire n'en est pas moins à pied d'œuvre pour déployer des motopompes, bâtir de nouveaux camps de sinistrés et tenter d'endiguer l'érosion des berges aux sorties de la ville. Carole Valade, N'Djamena, RFI.
Rissak Boula dénonce la décision de la junte au pouvoir à Niamey de lui retirer provisoirement sa nationalité nigérienne. Figure de la rébellion Touareg des années 90, lui et 8 autres responsables du régime renversé de Mohamed Bazoum sont notamment accusés d'intelligence avec une puissance étrangère, de trahison et de complot. Guillaume Thibault.
C'est via les réseaux sociaux, en diffusant un message de 3 minutes, que Rissak Boula a répondu à la junte et, sans le citer, à Abdourahman Tiani qui a signé le décret de retrait provisoire de citoyenneté. Et l'ancien chef rebelle s'est notamment appuyé sur son passé pour rappeler son attachement à son pays.
Ne vous attaquez pas au fondement de votre pays. Moi, j'ai pris les armes en 1991, pendant 6 ans. J'ai lutté contre le régime de l'époque, mais je n'ai jamais demandé de me séparer du Niger. Je suis Nigérien, je resterai Nigérien, quelle que soit la situation.
Rissak Boula et les 8 personnalités déchues provisoirement de leur nationalité sont considérés par la gendarmerie comme étant en fuite. Les autorités indiquent les rechercher pour leur implication présumée dans un complot. Dans son appel, Rissak Boula indique vouloir se battre pour la démocratie au Niger.
Nous sommes Nigériens, nous resterons Nigériens. Personne ne peut nous enlever ça. Donc, rester Nigérien, lutter pour la démocratie au Niger, mais jamais renier la nationalité nigérienne.
2 semaines après le putsch du 26 juillet 2023, Rissak Boula avait lancé un conseil de résistance pour la République dont l'objectif était de contrer la junte du CNSP. Dans son message audio, il indique qu'il réglera plus tard ses comptes avec la junte.
Une délégation dirigée par le président d'exercice de l'Union africaine, le Mauritanien Mohamed Oulcher El Khazouani, a achevé une visite de 3 jours à Tripoli et elle prévoit à présent une mission à Benghazi dans les prochaines semaines. Objectif, rallier toutes les parties libyennes à une charte de la réconciliation qui serait le point de départ à l'organisation d'élections. De quoi s'agit-il? La réponse de Jean-Claude Gakosso, le ministre congolais des Affaires étrangères. Il était dans la délégation comme représentant de Denis Sassou Nguesso qui préside le comité de haut niveau de l'UA sur la Libye.
La mission que nous venons d'accomplir en Libye avait pour but de susciter l'adhésion massive à la charte de la réconciliation qui a été élaborée par les Libyens eux-mêmes et qui devrait en principe être signé au cours d'une cérémonie solennelle à Addis Abeba, siège de l'Union africaine. Cette charte, c'est en quelque sorte un code de bonne conduite. Nous avons accompli la première étape et la seconde étape, effectivement, ce sera Benghazi. Et c'est dans quelques semaines. On va voir avec les agendas des uns des autres, du maréchal Haftar, du président Aguila Salé, le président du Parlement. Alors, le but, c'est de baliser le chemin des élections à venir parce que le processus électoral, vous le savez vous-même, s'est enlisé en 2021. Il faut absolument, absolument passer par les élections générales. Et comme vous le savez vous-même, les élections peuvent être source de violence. Donc, il faut composer avec tout le monde. Il faut de la patience, il faut de la subtilité dans le langage parce qu'on rien ne peut tout faire capoter, pour parler vulgairement. Sans être dans un optimisme béat, je pense que le processus est en bonne voie.
Jean-Claude Gacot se joint par Guillaume Thibault. L'accord cadre de coopération sur le Nil est entré en vigueur. Il vise cet accord à définir les droits et obligations des pays riverains du plus long fleuve d'Afrique pour son développement économique. 7 pays d'Afrique de l'Est ont signé, dont l'Éthiopie. 2, toutefois, ont refusé de le faire, l'Égypte et le Soudan. À Nairobi, Gaël Lalex.
Aujourd'hui marque l'aboutissement d'un long voyage vers l'utilisation équitable et raisonnable des eaux du Nil, se réjouit sur X Abiy Ahmed, premier ministre éthiopien. Le CFA reconnaît plusieurs principes fondamentaux, comme celui d'une coopération sur la base de l'égalité souveraine, de l'utilisation équitable des eaux ou encore de la prévention de tout préjudice pour les autres États du bassin. En outre, une commission du fleuve Nil doit être mise en place pour une gestion concertée. Autant de principes selon l'Égypte et le Soudan que s'est bien gardé de respecter l'Éthiopie lorsqu'elle a décidé il y a 10 ans de construire le plus grand barrage d'Afrique sur le Nil, affectant de facto les pays en aval. Réunie ce week-end au Caire, la commission technique conjointe pour les eaux du Nil, un organe de collaboration entre l'Égypte et le Soudan, a rejeté le CFA. Dans un communiqué, elle dénonce un document sans consensus qui ne respecte pas les lois internationales. Outre l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda et le Soudan du Sud ont ratifié le CFA. Tous ces pays se trouvent en amont du fleuve. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Ce 14 octobre est journée internationale des déchets électroniques. Des déchets qui représentaient 62 millions de tonnes en 2022 selon des chiffres de l'ONU. Moins d'un quart correctement collectés et recyclés, avec un impact pour l'environnement et la santé majeur. Igor Strauss, ce faible taux de recyclage explique en partie que des tonnes de déchets finissent chaque année en Afrique.
Et oui, au Ghana, au Nigeria, mais aussi au Togo, au Bénin, tous les États d'Afrique de l'Ouest sont touchés par ce phénomène aux conséquences dramatiques. Edem Dalmeida est créateur d'Africa Global Recycling à Lomé.
Déjà, le plomb est un problème. Ensuite, il y a le fait de les incinérer à ciel ouvert. Donc, inhalation de ces fumées toxiques. Les dégâts sont nombreux. C'est un véritable fléau dans nos territoires.
Selon l'Organisation internationale du travail, plus de 16 millions d'enfants travaillent dans le secteur industriel, dont le traitement des déchets, avec des risques élevés de retard du développement neurologique et une diminution des capacités respiratoires. Mais ce qu'on appelle trafic de déchets, souvent orchestré par des organisations mafieuses, ne prend pas en compte le marché du réemploi. De nombreux foyers africains sont équipés avec du matériel de seconde main importé d'Occident, mais une grande quantité de ces équipements arrivent alors qu'ils ne sont plus réparables et finissent à leur tour dans les décharges. Edem Dalmeida, créateur d'Africa Global Recycling.
Ce sont les équipements qui posent problème. Donc, il faut une vraie normalisation, une vraie lutte d'abord en amont sur leur export vers le continent.
Pour Edem Dalmeida, la quantité de déchets électroniques sur le continent est donc largement sous-évaluée puisqu'elle ne prend pas en compte ce marché informel des produits d'occasion. Pour lui, c'est aux États de surveiller ce qui rentre sur leur territoire pour que l'Afrique ne se transforme pas en dépotoir de la planète, Nicolas.
Dans quelques minutes, le point de vue de Julie Repetti, cofondatrice de CETIC, société de traitement des déchets d'entreprise basée à Dakar. Elle est l'invitée d'Afrique Midi. Il est 14h43. À Paris.
Afrique Midi sur RFI. Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, Nicolas, sur les sports et du football.
Avec la suite aujourd'hui de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Et puis nous verrons qu'une commission scientifique franco-malgache a été mise en place pour travailler sur la restitution de reliques de guerriers de la Grande Île tués pendant la période coloniale. L'actualité sportive, c'est donc du football avec la suite des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Victor Missistrano, on est à mi-parcours. La 4e des 6 journées a commencé hier.
Avec un seul match, mais déjà un premier qualifié, Nicolas, il s'agit du Burkina Faso. Grâce à sa victoire sur le Burundi 2-0, avec 10 points au compteur, les étalons sont assurés de finir à l'une des deux premières places de leur groupe et donc de voir le Maroc en 2025.
D'autres nations certains ont l'occasion de se qualifier dès aujourd'hui. C'est le cas notamment du Cameroun.
Il faudra pour cela battre à nouveau le Kenya, ce que les Lions Indomptables viennent de faire à Yaoundé la semaine dernière, 4 buts à 1. La seconde manche débute dans quelques minutes à Kampala, en Ouganda. L'Algérie espère aussi décrocher son ticket dès aujourd'hui. Carton plein des Fennecs pour l'instant, 3 victoires, la dernière en date. Un carton la semaine dernière face au Togo, 5 buts à 1 à domicile. Revanche à Lomé cet après-midi. Les éperviers vont devoir faire beaucoup mieux d'arrêt ni bombé. Le sélectionneur nous explique ce qu'il attend de ses joueurs.
Qu'ils se battent, qu'ils mouillent le maillot, qu'ils essaient de mettre en application toutes les corrections observées lors de cette première confrontation pour mettre le plus en danger l'équipe de l'Algérie. Qu'on ait aussi beaucoup de réussite parce qu'on a créé pas mal d'occasions, des situations qui nous permettaient de marquer plus qu'un but à Annaba. Nous, à l'approche du but de l'adversaire, il faudrait qu'on soit plus appliqué, plus concentré, afin de chercher à mieux atteindre les objectifs, c'est-à-dire de marquer des buts, quoi.
Darren Ibombé au micro de Comlan et Clou. Avant Togo-Algérie, le coup d'envoi c'est à 16h, temps universel. Pour l'instant, les Togolais sont troisième de ce groupe E, à 2 points de la Guinée équatoriale qui affronte dans le même temps le Libéria. Et puis dans un peu plus d'une heure, duel entre deux équipes à la traîne dans la poule A, la Gambie et Madagascar.
Alors les résultats dans Afrique Soir dès 18h30, temps universel. Demain, c'est la fin de cette quatrième journée, 17 affiches au programme, mais l'un des matchs n'aura pas lieu.
Oui, c'est le capitaine du Nigeria qui l'annonce. Avec l'équipe, nous avons décidé que nous ne jouerions pas ce match contre la Libye. William Trostekong s'indigne sur le réseau social X. Il explique avoir passé avec ses coéquipiers plus de 12 heures dans un aéroport sans boisson ni nourriture. Le gouvernement libyen a annulé notre atterrissage autorisé à Benghazi sans aucune raison. Ils ont verrouillé les portes de l'aéroport. Par conséquent, le défenseur indique que les Super Eagles préfèrent boycotter ce match, quitte à se voir infliger un forfait. Il demande à la CAF de se saisir de l'affaire. La star Victor Osimhen, absent du rassemblement, a publié un message de soutien à ses coéquipiers.
C'est un dossier aussi sensible que symbolique. La France va-t-elle bientôt restituer à Madagascar les crânes de guerriers malgaches décapités par les troupes coloniales à la fin du 19e siècle ? Un comité scientifique mixte a été mis en place en marge du dernier sommet de la francophonie à Paris, Pauline Le Troquier.
La demande de restitution a été faite pour la première fois il y a 21 ans par l'un des descendants du roi Touéra. Elle n'a jamais été aussi proche d'aboutir. L'histoire de ces crânes est celle d'un épisode douloureux de la conquête française du royaume Sakalave à l'ouest de l'île. À l'issue du massacre d'Ambique en 1897, 3 crânes malgaches sont érigés en trophée de guerre par les Français. Ils sont reconnus comme étant ceux du roi Touéra et de 2 de ses combattants décapités. Au-delà des enjeux mémoriels, les enjeux culturels sont immenses, explique Fetch Rakutunja Swav, secrétaire général du ministère malgache de la culture.
Les ancêtres ont une place très importante dans la culture. Là, on parle d'un roi, le dernier roi du royaume Sakalave. Beaucoup de gens connaissent l'événement culturel des Sakalaves, le Fitampu. Il y a cette rencontre avec les ancêtres, mais la cérémonie n'est pas complète sans le crâne du roi Touir, qui n'est pas encore en terre malgache.
La commission d'experts aura néanmoins à aborder la question de l'authenticité de la relique. Le crâne a été reconnu comme celui du souverain par la partie malgache sur la base de rituels de possession Sakalave. Des écrits de l'explorateur Guillaume Grandidier donnent également des indices dans ce sens. Mais les tests ADN réalisés sur des ossements du roi Touira n'ont pas permis de le confirmer. Reste, résume un historien malgache, qu'il s'agit là de Sakalave ayant résisté à la répression coloniale française. Leur restitution cristallise donc les enjeux d'apaisement des mémoires voulus par Paris. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Il est 14h48 à Paris. Anne Cantner, les grands titres de ce lundi 14 octobre.
La guerre au Liban, des bombardements israéliens ont visé le nord du Liban aujourd'hui et causé la mort de 18 personnes selon la Croix-Rouge. Alors que de violents combats sont en cours dans le sud, près de la frontière, annonce du Hezbollah. De son côté, l'armée israélienne prévient Washington que sa réponse sera forte après la frappe de drone qui a tué 4 de ses soldats et fait des dizaines de blessés dans le nord d'Israël hier. 3 ans de prison requis contre le français Laurent Vinatier en Russie. Ce chercheur est détenu depuis le mois de juin dernier. Il est accusé de ne pas s'être enregistré comme agent de l'étranger. Et puis la fin des exercices militaires de la Chine à Taïwan. Un véritable encerclement de l'île. 125 avions chinois repérés par les autorités taïwanaises. Cet exercice était présenté comme un avertissement aux séparatistes. Pour mémoire, Taïwan est indépendante de fait. mais Pékin revendique toujours sa souveraineté sur le territoire. Ce 14 octobre est la journée internationale des déchets électroniques. On parle là de tout produit mis au rebut avec une prise ou une batterie, selon les Nations Unies. Selon l'ONU, la production mondiale de ces déchets augmente 5 fois plus vite que leur recyclage. 62 millions de tonnes de déchets électroniques générés en 2022 et moins d'un quart correctement collectés et recyclés, avec évidemment un impact environnemental et sanitaire majeur. Julie Repetti, cofondatrice de CETIC, Société de traitement de déchets d'entreprise et notamment de déchets électroniques basée à Dakar, est votre invitée, Nicolas Sûr.
Bonjour Julie Repetti.
Bonjour.
Est-il exact de dire que l'Afrique est la région du monde qui génère le moins de déchets électroniques, mais quelle est la poubelle de ce produit ailleurs ?
Oui, malheureusement, c'est assez exact. Alors, on a une production interne de déchets électroniques qui grossit, hein, avec le développement de l'Afrique. Néanmoins, la plus grosse partie des déchets électroniques qu'on a traités en Afrique viennent des autres pays d'Europe, d'Amérique, voire même d'Asie. Donc malheureusement, oui, on reste le plus faible producteur de déchets électroniques internes, mais celui qui en reçoit beaucoup, beaucoup des autres continents.
Et on parle aussi de produits de seconde main envoyés sur le continent africain, dont on se rend compte finalement qu'on ne pourra plus rien en faire. Ce phénomène existe aussi.
Oui, oui, oui. En réalité, en général, les équipements sont importés en Afrique sous couvert d'équipements de seconde main. Mais ce dont on s'aperçoit, en fait, c'est que dans la grande majorité, ils ne sont pas réutilisables. Et en fait, ils ont très peu de seconde vie, on va dire, et ce sont pour la plupart des déchets. Mais ils viennent sous couvert du label équipement de seconde main.
Ce qui leur permet de contourner les législations internationales et notamment les conventions qui interdisent les exportations de déchets dangereux ?
Exactement. En fait, le Sénégal et d'autres pays de la sous-région, on est sous la convention de Bâle, ce qu'on appelle la convention de Bâle, c'est-à-dire que ça interdit justement les mouvements transfrontaliers de déchets, notamment électroniques, s'il n'y a pas de solution dans le pays où vont ces déchets, et en l'occurrence en Afrique. Mais quand ils sont labellisés de seconde main, en fait, ils ne sont pas considérés comme des déchets, donc ils passent à travers. En plus, avec le volume, en fait, les douanes, en règle générale, n'ont pas le temps d'aller tester tous les équipements d'un conteneur. Donc souvent, ils en testent un ou deux qui fonctionnent, et sachant que la majorité ne fonctionne pas. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à les exporter en Afrique.
Alors, il y a un business local tout de même autour de ces déchets, des récupérateurs qui désossent les vieux appareils pour revendre ce qui peut l'être. Ça génère tout de même des revenus, mais ça pollue.
Oui, tout à fait. En fait, il y a un business local qui est en grande, grande majorité informel. Et donc, le traitement de ces déchets, en fait, le problème, c'est qu'une faible fraction des déchets est récupérée. C'est la fraction qu'ils peuvent revendre, comme le cuivre ou les cartes électronique, mais le reste, la majorité, se retrouve en décharge, en fait. Ce qui pose un réel problème de santé publique, pour commencer, et de pollution des sols et de l'air, puisqu'en réalité, par exemple, ils vont aller brûler des câbles, donc avec tous les polluants qui vont aller dans l'air ou dans le sol, et en réalité, une faible partie est réellement valorisée. Malgré tout, ça reste la principale manne, on va dire, du recyclage, entre guillemets, des déchets électroniques, qui est en très, très grande majorité encore informelle.
Avec un danger majeur, donc, pour la santé et pour l'environnement, car ces déchets contiennent des additifs toxiques ou des substances dangereuses.
Oui, tout à fait. Ils contiennent des gaz toxiques, ils contiennent des produits comme le plomb, le cadmium, qui sont très dangereux pour la santé, sans compter que l'impact sur la santé de ces recycleurs informels est énorme, puisqu'en général, leur durée de vie, on va dire, l'âge moyen, en fait, de décès au niveau de cette fraction de la population est très jeune, puisqu'ils sont souvent malades à cause de problèmes pulmonaires, etc., à cause de ces produits toxiques qui sont contenus. C'est une pollution invisible, en fait. C'est le problème des déchets électroniques, c'est qu'on ne voit pas la pollution, puisque souvent c'est gazeux ou ça va être brûlé, ça va polluer les sols. Et du coup, la population ne se rend pas forcément compte du danger qu'elle manipule. Mais l'impact sur la santé et l'environnement est très, très nocif.
L'une des solutions serait de mettre en place des filières de traitement adaptées. Est-ce que ça coûte trop cher ou est-ce qu'il y a un manque de législation et de volonté politique ?
Un peu des deux. En réalité, il y a de plus en plus une volonté politique, mais faire des lois, ça prend du temps. Et les appliquer, ça prend encore plus de temps. En réalité, il y a un vide juridique autour de la question des déchets électroniques dans la plupart des pays d'Afrique. Ce qui fait que ça laisse une espèce d'ambiguïté, notamment au niveau des entreprises, etc. Ça laisse un petit vide, une petite liberté pour voir quoi faire de ces déchets. On essaye, il y a des initiatives qui existent. Le problème, c'est que les coûts de process de recyclage sont très élevés. C'est pour ça que d'ailleurs en Afrique, il y a très peu de structures de recyclage des déchets électroniques et aucune qui va traiter vraiment jusqu'au bout, parce qu'il y a encore des fractions qu'on est obligé de renvoyer en Europe, par exemple, pour être traitées, comme les cartes électroniques. Pourquoi ? Parce que ce sont des process qui coûtent cher, où il faut beaucoup de volume aussi pour amortir. Et aujourd'hui, en Afrique, il n'y a pas de subvention, et particulièrement, par exemple, pour le cas du Sénégal, on n'a pas encore de subvention pour des organismes comme les nôtres de recyclage. Donc, la majorité, le plus gros du volume reste brassé par le secteur informel, puisque comme ils n'ont pas toutes les contraintes technologiques et de coûts que le secteur privé, en fait, ils vont pouvoir racheter des fractions que le secteur privé ne peut pas racheter, parce que c'est pas un système qui est rentable si on rachète, en fait. Donc, des initiatives existent, ça se développe de plus en plus, et au niveau des gouvernements, de plus en plus, on commence à prendre conscience de cette problématique des déchets électroniques, mais ça reste encore très, très faible. Par exemple, je vais prendre le cas du Sénégal, il y a des dizaines de milliers de tonnes chaque année de déchets électroniques générés en interne. Donc, je vous parle même pas des importations. Et aujourd'hui, les structures comme les nôtres, on va avoir accès à les quelques centaines de tonnes. Donc, vous voyez encore que le ratio reste très faible.
C'est une goutte d'eau dans l'océan.
Tout à fait.
Merci Julie Repetti. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. L'Afrique du Sud souhaite rester une force de maintien de la paix qui compte sur le continent. Ses militaires sont aujourd'hui déployés au sein de missions de la SADC, la communauté des États d'Afrique australe, en RDC ou au Mozambique. Mais le pays a-t-il les moyens de ses ambitions? Le manque d'équipement de l'armée sud-africaine sur son propre territoire alimente la polémique, Claire Bargelès.
L'Afrique du Sud reste la troisième force militaire du continent, derrière l'Égypte et l'Algérie, selon le classement Global Firepower. Mais des problèmes avec ses équipements ont été mis en lumière lors de son déploiement en RDC, notamment dans le domaine aérien, avec nombre de ses hélicoptères en maintenance. Pour James Kerr, analyste et fondateur de la société Orion Consulting, le pays doit investir dans du matériel à la hauteur de ses ambitions.
Pour le moment, nos forces armées sont surtout équipées pour du combat traditionnel. Il n'y a pas encore de financement pour les rééquiper entièrement afin de pouvoir évoluer dans des environnements nécessitant des brigades d'intervention. Le besoin a bien été identifié, mais les financements et les formations ne suivent pas. Il y a donc une forme de déconnexion entre les deux.
Pourtant, l'Afrique du Sud a une industrie de l'armement très développée, avec plus de 600 entreprises impliquées dans la fabrication. Et les grands groupes peinent ensuite à vendre leur matériel à l'armée, alors que le budget national de la défense représente moins de 1% du PIB. Sandilène Dlovu est à la tête de l'organisme qui représente le secteur.
Nous avons une industrie de la défense très développée qui existe depuis plus de 70 ans. Nous exportons vers tous les continents, mais notre armée nationale n'a pas les fonds suffisants pour se fournir chez nous comme il le faudrait. En conséquence, elle n'est pas bien équipée et notre industrie voit aussi ses capacités décliner.
De plus, l'entreprise publique Denel, principal fournisseur de l'armée, a aussi connu des déboires, comme le détaille William Klakwane, son actuel directeur d'exploitation.
Vous savez que Denel a été frappé par la corruption et la saisie de l'État et nous avons fait ce qui était possible pour nous remettre sur pied. Nous étions, il y a peu, une entreprise qui était incapable de payer ses employés. En 2022, il y a eu un refinancement du gouvernement de plus de 3 milliards de rand et en conséquence, en ce qui concerne notre portefeuille de dette, nous avons réussi à en régler 90 à 95%.
Enfin, les analystes soulignent aussi que le pays n'a pas les ressources suffisantes pour déployer son armée à la fois à l'extérieur, comme force de maintien de la paix, et à l'intérieur, avec de plus en plus de missions pour combattre la criminalité. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Et c'est à Johannesburg que se termine cette demi-heure africaine, réalisée et préparée avec Laurent Chaffard, Benoît Raymond et Zigrid Azeroual. Merci à eux, merci à vous de nous avoir suivis.
À demain, Nicolas Sûr. Restez sur RFI, on se retrouve dans une minute pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Deux autres options, vous le savez, selon l'endroit du monde d'où vous nous écoutez. Une demi-heure d'information en full day si vous êtes en Afrique de l'Ouest. Ou bien notre session en langue portugaise si vous vous trouvez en Afrique lusophone. À tout de suite.
Priorité santé.
Chantal Laureau vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
La crise hémorroïdaire est une pathologie taboue. Comment la soigner et la prévenir?
Mercredi.
Arthrite, arthrose, l'alimentation peut atténuer les douleurs.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Vous êtes chanteur ou musicien d'Afrique, des Caraïbes ou de l'océan Indien? Vous rêvez de développer votre carrière à l'international? Inscrivez-vous en ligne pour le prix Découverte RFI avant le 20 novembre.
Le lauréat ou la lauréate aura la chance d'être à l'affiche d'un concert diffusé sur RFI et bénéficiera d'une tournée en Afrique et d'une aide à la création.
Retrouvez toutes les étapes et actualités du concours sur prixdécouverte.com et sur Facebook, Insta et TikTok.
En partenariat avec l'Institut français.